Alors, il y a plusieurs semaines, nous avons regardé en détail le don de parler en langue. Et pour finir, nous avons vu que le problème à Corinthe n'était pas le don lui-même, c'était que les Corinthiens l'exerçaient lors des réunions de l'Église d'une manière désordonnée. Le plus grand problème, il n'y avait pas d'interprétation des paroles données en langue. Et cette manque d'interprétation faisait en sorte que personne, sauf celui ou celle qui parlait en langue, n'était édifié. En plus, il semble que beaucoup parlaient en langue au même moment, quelque chose qui amenait la confusion et provoquait les visiteurs non-croyants à dire des Corinthiens, « Vous êtes fous ». L'apôtre Paul ne méprise pas le don de parler en langue. Ce don fait partie de la diversité des dons de l'Esprit, et comme un parmi plusieurs, il a sa place dans la vie de l'Église. Et on dit cela, ceux qui veulent parler en langue doivent reconnaître que Paul a mis des limites à ce don. Il a fait cela pour que le don ne prenne pas trop d'importance dans la vie de l'Église. C'était un don quelque part impressionnant, quelqu'un qui prie ou qui parle en une langue inconnue, en présence de beaucoup de monde, va forcément tirer les regards. Mais le don n'est pas pour se montrer. Il est donné pour la prière, pour la communication entre l'homme et Dieu. Certains des Corinthiens pensaient que par ce don, ils étaient rendus plus spirituels. Ils avaient tort, et Paul prend pas mal de temps pour les corriger. Tout au long de son discours sur le don de parler en langue, Paul le compare avec le don de prophétie. Le don de parler en langue est bien, mais pour l'édification de l'Église, le don de prophétie est mieux. Et Paul dit au verset 5 du chapitre 14, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Et donc c'est la prophétie que nous allons examiner aujourd'hui. Et vous pouvez commencer déjà à chercher le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Comme j'aime chercher des histoires amusantes et intéressantes, de temps en temps, j'en avais cherché au sujet de la prophétie. Et j'ai trouvé un petit récit qui donne la compréhension populaire de ce que c'est la prophétie. Voilà, vous connaissez tous, j'espère, Christophe Colomb. Oui? Ou pas personnellement, mais c'est celui qui a découvert l'Amérique, le Nouveau Monde. À part être un aventurier, il croyait être un prophète. Et dans un de ses œuvres qui s'appelait le Livre des Prophéties, il a prophétisé, et il était très très sérieux, que le monde trouvera sa fin en 1656. Colomb a choisi cette date parce qu'il croyait qu'il y avait 1656 ans entre la création et l'inondation de Noé. Il était si certain qu'il avait écrit dans son livre au début du VIe siècle que « il n'y a aucun doute que le monde doit disparaître dans 155 ans ». Je crois quand même qu'il avait tort. J'espère. Pour beaucoup, la prophétie, c'est prédire l'avenir et donner un aperçu sur le futur. Surtout, il semble, le futur de notre planète. Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a bien prophétisé la date de la fin du monde. Et j'ai quelque part le soupçon que si un jour quelqu'un tombe par chance sur la bonne date, Dieu le changera quand même. Comme nous avons parlé de la nature du don de parler en langue, il faut aussi parler de la nature du don de prophétiser. Cependant, la tâche est plus difficile. Le don de parler en langue n'apparaît que dans le Nouveau Testament. En plus, nous n'y trouvons que quelques exemples du don. Il n'est pas trop difficile donc d'arriver à une compréhension raisonnable du don de parler en langue. Mais quand nous parlons de la prophétie, nous en trouvons des exemples partout, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est remplie de prophéties. Nous avons beaucoup plus de données à passer au crible pour arriver à une bonne compréhension de ce don, comme il se trouve même dans 1 Corinthiens. Nous n'avons pas le temps ce matin d'aller creuser dans tout l'Ancien Testament, mais je propose alors que nous restions simplement dans le Nouveau Testament. Mais même en faisant cela, nous n'arrivons pas au bout du sujet ce matin. Cela veut dire qu'aujourd'hui, comme quand nous avons parlé du don de parler en langue, je ne fais que lancer la discussion. Il est certain que nous ne saurions pas le terminer ce matin. Et donc, j'aimerais regarder avec vous quelques points de base. Premièrement, cette semaine, nous allons voir la nature le don de prophétie selon l'apôtre Paul. Comment les prophéties viennent-elles à nous? Elles servent à quoi dans la vie de l'Église? Puis par la suite, dans deux semaines, parce que nous avons créé l'ordre d'exo qui viennent la semaine prochaine, dans deux semaines, nous allons regarder le jugement et l'interprétation des prophéties. Qu'est-ce que nous devons faire avec une prophétie reçue par l'un ou l'autre dans l'Église? Nous allons essayer de faire tout cela en regardant ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, avec référence à d'autres écritures en plus. Mais premièrement, nous allons lire 1 Corinthiens 14 ensemble, en fait, du début à la fin. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire pour moi? Personne. Merci Claude.
Le don de l'esprit pour l'édification de tous. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frère, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, y trouver les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on s'étaise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier s'étaise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exaltés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes s'étaisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Amen.
Merci Claude. Voilà la plus grande question ce matin. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Si nous voulons parler de comment Dieu parle aux hommes et aux femmes, il y a plusieurs mots que nous devons considérer. Et chaque mot parle de quelque chose de distinct. Ils ont des points en commun, mais l'un n'est pas l'autre. Donc les trois mots que nous trouvons le plus souvent dans la Bible sont prophétie, vision et rêve. Ensemble, ils peuvent être regroupés tous sous le titre révélation. Une révélation étant quelque chose que Dieu révèle à son peuple, dans le cas de la prophétie, par l'intermédiaire d'un prophète ou une prophétesse. Des visions et des rêves sont un sujet intéressant, mais nous n'allons pas les regarder ce matin, ça c'est pour l'autre fois. Dans notre étude du don de parler en langue, je vous ai dit que parler en langue, c'est prier par l'esprit dans une langue que vous n'avez jamais appris. Nous pouvons dire que la direction verticale du don, c'est du bas jusqu'en haut. Les hommes et femmes parlent à Dieu. Au contraire, par le don de la prophétie, Dieu parle aux hommes et aux femmes. Une femme ou un homme qui reçoit une révélation de Dieu, il ou elle le communique par la suite aux autres. Une chose importante à dire, c'est qu'une prophétie est donnée avec un certain but. Elle sert à quelque chose. Le fait de prophétiser n'est pas en soi la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est le message qui est communiqué. Prophétiser ne rend pas le prophète plus spirituel ou plus important, mais cela ne diminue en aucun cas l'importance de la prophétie pour l'Église même aujourd'hui. Et je mets un petit parenthèse. Je crois que Dieu parle toujours à son peuple par des prophéties. Mais comme je vous ai dit quand nous avons parlé du don de parler en langue, il nous faut du discernement, de la justice et de l'humilité dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Les Écritures doivent être notre guide et doivent toujours informer notre pratique. Il ne faut pas commencer avec notre pratique, ce que nous faisons, ou ce que nous avons expérimenté et supposé que nous avons tout compris. Donc soyons encore comme les Juifs de Béret, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce que je vous dis ce matin n'est qu'une optique. C'est le résultat de mes études. Et c'est à ce point que je veux bien aussi remercier Claude une deuxième fois, parce qu'on a échangé pas mal d'emails sur le sujet de la prophétie ces derniers temps, qui m'a beaucoup aidé. Et bien que j'ai pu prendre pas mal de temps pour étudier ce sujet. Je sais que je n'ai que gratté la surface d'un sujet profond. J'essaie d'être correct dans mes propos, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de lire la Bible pour vous-même pour voir si ce que je vous dis est juste. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, Paul dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Avec ces trois mots, Paul nous donne une bonne idée d'à quoi sert la prophétie. Nous allons donc examiner ces trois termes. Premièrement, l'édification. Au verset 28 et 29, Paul précise le contexte de l'utilisation des dons de parler en langue et de la prophétie. Le contexte, c'est une réunion de l'Église. La prophétie doit servir pour l'édification de tout le monde, toute l'Église. Quand nous édifions quelqu'un d'autre, nous le construisons, nous le fortifions, nous le faisons grandir dans sa foi. L'opposé de l'édification, c'est la destruction. Comme nous le savons bien, édifier demande beaucoup plus d'énergie que détruire. Bâtir, c'est toujours plus difficile que démolir. Mais par l'édification, nous faisons du bien à l'Église de Christ. Nous aidons des autres à mûrir, grandir et mieux servir. Et en général, tous les dons de l'Esprit doivent servir à l'édification de l'Église. Cependant, il semble que le don de la prophétie est particulièrement bon pour l'édification, surtout en comparaison avec le don de parler en langue. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens qu'ils devraient rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ils ne cherchent pas à ce qu'il n'y ait que des prophéties dans l'Église, mais que les chrétiens de Corinthe cherchent à exercer les dons par lesquels l'Église soit édifiée le plus. Il faut dire en plus que Paul ne cherche pas à ce que tout le monde prophétise. Si nous retournons tout brièvement à 1 Corinthiens 12, 29, nous voyons que Paul pose la question « Tous sont-ils prophètes ?» Et il s'attend à ce que la réponse soit « Non ». Encore une fois, en disant que tout le monde doit aspirer au don de la prophétie, il parle de ce que nous pouvons appeler la démocratie du don. La prophétie n'est pas limitée à ceux qui ont déjà une certaine influence ou position dans l'Église, mais c'est un don pour tous, pour les riches, les pauvres, les esclaves, les libres. Il ne faut pas croire que l'édification ne parle que des choses positives non plus. Quand Dieu donne une prophétie, ce n'est pas pour caresser dans le sens des poils. Bien qu'une prophétie puisse nous donner de l'encouragement, il y a parfois des choses difficiles à avaler, mais qui sont quand même pour notre bien. Et pour regarder un exemple, nous pouvons lire dans Actes chapitre 21, du verset 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. La réaction de l'entourage de Paul nous montre que cette prophétie n'était pas facile à accepter. Cependant, Paul l'accepte parce qu'il sait que son destin est entre les mains du Seigneur. Quand plus tard il va à Jérusalem, il est déjà averti par la prophétie de ce qui va lui arriver. Il peut se préparer. La prophétie s'accomplit quelques versets plus tard dans Actes 21 à partir du verset 33. Mais nous voyons qu'à cause de son arrestation, Paul est donné l'occasion de s'adresser à la foule qui voulait le tuer. Les soldats qui l'ont arrêté deviennent son garde du corps. En fait, moi, j'arrête là. Cette histoire est vraiment intéressante, mais nous allons peut-être la regarder un peu plus de détails quand nous parlons du jugement et de l'interprétation des prophéties dans quelques semaines. Puis parmi les trois termes que Paul utilise au verset 3, le mot « exhorte » est peut-être le plus difficile à saisir. C'est un mot qui comprend quelques idées semblables, un mot avec des facettes différentes. Il peut dire « encourager », »,« avertir », »,« conseiller », »,« consoler », »,« inviter » ou « demander », entre autres. En général, moi, quand je pense à l'exhortation, j'imagine que quelqu'un me dit qu'il faut faire quelque chose. Je suis influencé par ce qui a été dit et je dois répondre et agir. Le mot peut être positif ou négatif. Avec le sens positif, je suis encouragé à faire quelque chose. Par le sens négatif, je suis averti ou déconseillé à faire quelque chose. Et par rapport à la nature de la prophétie, il me semble que nous pouvons dire que dans une prophétie, il est possible qu'il y ait un élément de direction donné à l'Église ou à une personne. Encore une fois, il faut certainement juger ce qui a été dit. Malheureusement, ce qui arrive parfois, c'est qu'une personne entend une prophétie et elle la met tout de suite en pratique, sans vraiment réfléchir ou juger ce que l'on a dit. Mais cela parle plus d'une mécompréhension sur ce que nous devons faire avec une prophétie reçue que le caractère de la prophétie elle-même. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas beaucoup d'exemples des prophéties qui exhortent, mais dans Actes chapitre 15, le verset 32, nous pouvons lire que Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ces deux hommes travaillaient quelque temps à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce qui est évident, c'est que le ministère de ces prophètes comprenait l'exhortation. Le fait que Luc, l'auteur du livre des Actes, mentionne en particulier que Jude et Silas étaient prophètes nous montre le lien fort entre le don de prophétiser et le contenu de la prophétie, ce qui exhorte. Encore une fois, la prophétie sert à quelque chose. Elle n'est pas seulement un don par lequel quelqu'un montre sa spiritualité ou son dévouement. Puis notre troisième mot, c'est la consolation. Nous consolons ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont tristes ou perdus. Nous les consolons pour qu'ils puissent connaître le confort qui vient du soutien des autres. Et dans le domaine de la prophétie, le plus grand exemple que nous puissions trouver de cette consolation, c'est la prophétie de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et vous le dites, comment ça? Il est vrai que l'Apocalypse est un livre parfois un peu obscur. Il y a des images fantastiques des personnages et des événements, mais le message est assez simple. Jésus, par l'apôtre Jean, dit à son église souffrante, « Ne vous inquiétez pas, j'ai gagné. » Quoi que cela soit que l'Église souffre, même que nous mourions pour notre foi, Jésus a gagné, la victoire a été gagnée il y a 2000 ans à la croix. Satan a été défait. En fait, tout ce qu'il fait maintenant ne sont que des efforts d'un être qui a déjà perdu. Oui, il peut faire du mal au sein de Dieu, vous et moi, mais il ne peut nous jamais arracher notre salut ou changer notre destin en Christ. Cela est assuré. Et donc pour nous, quelle consolation face à l'épreuve, la difficulté et même à la mort. Je crois que nous pouvons aussi faire référence ici au verset 24 et 25. Paul dit, « Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants, un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Dans ces versets, Paul parle de ce qui se passe quand un non-croyant ou quelqu'un qui connaît déjà un petit peu une église, quelqu'un que nous appellerons peut-être un sympathisant, entend une ou des prophéties. Paul ne nous explique pas le contenu de ces prophéties. Nous ne voyons que les effets et les résultats de ce qui a été dit. La personne est convaincue par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Certains croient que dans ce passage, Paul parle des prédications, ou au moins des prédications comme nous les pratiquons aujourd'hui. Une personne, comme moi, qui se met devant une assemblée tout seul pour parler de la Bible pendant une bonne demi-heure, ou plus. Ce n'est pas du tout certain que cette forme existait dans le Nouveau Testament. Mais même avec nos prédications modernes, il est vrai que parfois nous sommes tellement touchés par quelque chose que le prédicateur dit que nous demandons comment est-ce qu'il a su. En plus, je crois fermement qu'une prédication peut être prophétique, mais je ne crois pas que toute prédication soit une prophétie ou que toute prophétie soit une prédication. En fait, il y a plusieurs raisons pour cela. Ici, Paul ne parle pas de l'enseignement. Il existe en grec un mot précis pour prêcher et un autre pour prophétiser. Ils sont distincts et Paul ne les mélange jamais. Dans Éphésiens 4, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le prophète et le pasteur-docteur travaillent pour le même but, pour l'édification de l'Église, mais ils ont des rôles quand même différents, bien qu'ils aient certains points en commun. Et pour un sujet un peu plus controversé peut-être, aussi si nous croyons que Paul parle des prédications dans ces versets, nous devons forcément dire que les femmes ne peuvent pas prophétiser, parce que si elles le font, elles prêchent. En fait, dans notre mini-série « Hommes et femmes dans l'Église », qui est, je fais une publicité, qui est disponible sur le site de l'Église, où vous pouvez me demander des copies sur papier, nous avons déjà étudié des passages qui parlent du fait que Paul ne permet pas aux femmes de prêcher devant une assemblée composée des hommes et des femmes. Mais au chapitre 11, le verset 5 de 1 Corinthiens, Paul a dit « Toute femme qui prie ou qui prophétise ». Et là, il parle des réunions de l'Église où les hommes et les femmes soient présents. Donc, pour rester logique à l'égard des Écritures, nous devons dire que prophétiser et prêcher ne sont pas la même chose. Comme j'ai déjà dit, une prédication peut être prophétique, mais cela ne veut pas dire que chaque prophétie est une prédication ou que chaque prédication est une prophétie. Et de toute façon, on va revenir sur le sujet de ce qu'on a lu dans les derniers versets. À partir du verset 34 dans chapitre 14, on va y revenir. Il me semble que dans ce passage, la prophétie fait quelque chose d'autre que la prédication, quelque chose de différent. Et cette chose, ça cause un non-croyant d'adorer Dieu. Cela suppose, je crois, qu'il devient maintenant croyant. Le mot « convaincu » nous fait penser à la repentance et le pardon. Nous trouvons le même mot pour « convaincu » dans Jean 16, verset 8, où Jésus dit du Saint-Esprit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Comment est-ce que nous voyons la consolation dans ces versets, le verset 24 et 25? C'est simplement ceci. « Celui qui est sauvé » a eu une résolution à son plus grand problème. L'ennemi de Dieu devient l'enfant de Dieu. Satan, dont nous avons parlé il y a quelques minutes, n'a plus de prise sur lui. Et je trouve que c'est un soulagement incroyable. Quelle consolation pour le pécheur perdu. Ce que nous notons dans ces trois termes, l'exhortation, l'édification, l'exhortation et la consolation, c'est que aucun d'eux ne nous donne une idée complète de ce que c'est la prophétie. Paul ne nous donne même pas un exemple d'une prophétie dans ce passage. Il faut aller chercher ailleurs dans les Écritures pour trouver toutes les formes que la prophétie puisse prendre. C'est-à-dire, il me semble donc que la prophétie est peut-être plus large que nous ne pouvions penser. Il y a plus de choses qui peuvent se trouver sous la rubrique prophétie que nous réalisons. évidemment, tout n'est pas prophétie. Et il nous faut du discernement quand nous entendons une parole qui pourrait être une prophétie. Mais au plus simple, nous devons, je crois, voir plus large et être plus ouverts à comment Dieu veut communiquer avec nous, son peuple. Une prophétie est beaucoup plus que juste un aperçu sur l'avenir ou une directive pour une personne ou une église. Je me suis demandé comment terminer mon message. Je peux juste m'arrêter, je suppose, mais j'ai essayé de poser quelques fondations sur lesquelles nous pouvons bâtir la prochaine fois que nous parlons de ce sujet. Il n'y a pas vraiment une conclusion à donner ce matin à ce que je vous ai dit, sauf ceci. Il ne faut pas oublier l'amour. Paul dit lui-même, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il est possible que l'un ou l'autre entre nous reçoive une prophétie, mais si nous le partageons sans amour, si notre attitude n'est pas correcte, si nous cherchons simplement à nous faire voir, cette prophétie ne vaut pas grand-chose. Le message est anéanti par celui ou celle qui l'apporte. Et c'est donc avec les premières paroles de Paul au chapitre 14 que je termine. J'ai pris dans une autre version qui dit « Poursuivez l'amour ». Donc, frères et sœurs bien-aimés, en conclusion, poursuivons l'amour. Et tout le reste viendra par la suite. Voilà, prions ensemble.